colère vieux, argile de femme. Dès que Villevray a eu hérité de son père, il a donné sa démission d'inspecteur des finances. Lorsqu'il a eu hérité de sa mère, il s'est marié avec la jolie Germaine de Courbière, dans un dépit de celle-ci qui avait été à moins de deux doigts d'épouser Saint-Arc. Quand Villevray a été installé en ménage la première année, il a donné à Germaine un petit garçon. La deuxième année, il a ajouté une petite fille. La troisième année, ce fut une fausse couche. Et maintenant, il ne saurait plus être entre eux question de quoi que ce soit qui pourrait renouveler rien de tout cela. Une des pensées que Villevray exprime le plus fréquemment, s'il se rend en compagnie d'un véritable ami, est ainsi connue. « Ah, mon cher, tu feras bien de ne jamais te marier !» Sur ces mots, on le dévisage, malgré soi, d'une façon qui doit lui dire, trop lui dire, « Voyons, écoute-moi ça. Je ne connais pas, crains pas les détails. Allez, compte-moi bien comment toute l'affaire t'est arrivée. » Et le remarque comme une énergie dévoyée dans la réflexion de sa figure poupine où l'animosité du regard a quelque chose de vaguement sevré. « Oh !» réplique-t-il avec vivacité. « La pauvre petite, je lui reproche rien, c'est pas sa faute. Sûrement, c'est elle la plus à plaindre. Et Dieu sait si elle fait preuve de courage, de patience, de bonne humeur, mais tout de même, c'est pas de chance pour moi. Et quoi donc? Eh bien, mon cher, voici plus de 2 ans que ma femme passe un total d'environ 11 mois et demi sur 12, étendue tout du long d'une chaise longue. Elle n'est pas plutôt rétablie que crac! Et là-dessus, Villevray vous initie à la mystérieuse infirmité de Madame Villevray, avec les complaisances de langage qu'un vraiment bon garçon a toujours pour les sujets qui l'intéressent exclusivement, mais aussi avec les réticences d'un galant homme parlant d'une maladie de femme que sa femme a. On ne parvient jamais à tout à fait entendre ce que Villevray a des chuchotements de seuil de temple. On se représente confusément, on devine ténébreusement. On courbe le front, incapable de rien répondre. On baisse les paupières dans le respect d'un tabernacle, quand la voix de Villeray s'atténue, s'arrête à certains points, oscille, et se détourne de ce qu'il allait lui falloir dire pour que sa phrase eût un sens. Dans le petit salon où vit presque uniformément Germaine, tout est de style Louis XVI, aussi bien que sa charmante tête de 25 ans. Elle a un peu en désordre la masse blonde de ses cheveux et le sourire pâle et figé d'une princesse de Lamballe qui dans l'instant viendrait d'être décapitée sans avoir détesté de l'être. Autour de son long siège de plumes et de soie sont des meubles dorés, une atmosphère douce où les médaillons en porcelaine de Sèvres s'enchâssent dans le but de rose. Ses parents, ses amis, les amis de son mari et les siens lui font une société permanente, une compagnie de tous les jours. Parmi cet entourage composé de jeunes S aimables et de sympathies frivoles, Germaine écoute et cause avec cette nuance dans sa pâleur tendre de paraître toujours avoir l'âme ailleurs. Elle est d'un autre temps que la visite qui lui arrive, d'une autre race et surtout d'un autre lieu, inconnu que, certes, je soupçonne et dont je communiquerai peut-être l'intuition au lecteur, sans que personne puisse rien préciser ni affirmer. Et pourtant, lorsque tous ces visiteurs se taisent et se confondent ensemble, à sentir leur vie si différente de sa perpétuelle convalescence, c'est elle qui fournit l'aliment de la conversation, montrant par là un peu de ce qui est emmagasiné dans son cœur. Elle lance en l'air, quelle qu'il ait l'existence satisfaite, de bonheur sans envie, comme une muette à des oiseaux. Et tout ce monde léger qui l'environne se manifeste aussitôt, semble sortir d'un feuillage alentour, se précipite en piaillant sur le mot jeté, qui se renvolent dans le silence. Et Germaine les a considérés être ainsi, avec une mine de s'en amuser, de se savoir, quant à elle, bien maîtresse de son sort, et de se tenir sur l'autre côté de la grille de cette volière. Tantôt il y a 6 semaines, tantôt 2 mois et demi, que la jeune femme est condamnée au repos absolu. Quand vient la permission de marcher un peu, d'aller venir, de sortir enfin? D'abord, sa mère la promène en voiture, ensuite c'est elle-même qui promène ainsi sa petite fille et son petit garçon. Vers le 4e ou le 5e jour, se portant de mieux en mieux, elle se risque seule, avec la résolution d'une femme qui n'a pu, depuis si longtemps, faire aucune de ses courses, parmi lesquelles il faut vraisemblablement s'en trouve dont elle puisse charger personne de s'acquitter pour elle. Et au lendemain de cette imprudence, tandis que Villeray recommence à se désespérer, Germaine est réduite à reprendre sa continuelle attitude sédentaire, où elle s'allonge avec son blanc et grand sourire de princesse héroïque, qui, pour bien de nouvelles semaines encore, ira s'amincissant et se rétrécissant sur ses lèvres songeuses. « Ah, ça !» s'exclama Jean Villeray, « est-ce qu'on ne se décidera pas bientôt à fermer ces abominables magasins de nouveautés où ces sacrées femmes ont la rage d'aller faire le pied de grue ?» À l'interrogatoire très net que lui a infligé une fois le médecin de la maison, il a riposté avec non moins d'honnêteté qu'il savait trop le genre d'égard qu'il devait spécialement à la santé de sa femme pour y avoir jamais manqué. Et à la suite de cette ânerie, il n'a plus voulu consulter que des sommités médicales. Germaine a été envoyée à Luxeuil, à Plombières, à Salles-Lyde-Bérarn, et autour de chacune de ses cures, elle a débarqué chez elle, si vaillante, si alerte, que sur le teint fleuri et illuminé de sa femme, Villeray croyait déjà voir se préparer un anniversaire de ses anciennes fêtes maritales. Et chaque fois, après quelques jours, la rechute est survenue, à la veille des célébrations projetées, après quelques sorties sur l'opportunité et la nature de laquelle Madame Villeray s'explique peu, comme par une crainte d'être grondée pour n'avoir pas été tout à fait raisonnable, ni assez soigneuse d'elle-même, ni seulement mesurée. « Il y a certainement quelque chose à Paris qui lui va pas !» observe son mari dans une lamentation ingénue. Il se garderait d'attrister par des récriminations hélas vaines le calme sourire dont elle l'implore, et le regard qui lui brille, tout ravivé par un dernier reflet de l'ange de la fatalité qui vient encore de passer sur elle. C'est ainsi que, reconnaissant à la vie des courtes heures de relevailles qu'elle en reçoit, patiente, résignée dans ses limbes, Germaine, avec les souplesses alanguies de son corps et de sphinx, pose une perpétuelle énigme à ceux même qui croient pourtant la comprendre, et surtout à ceux-là. Et tout désireux que l'on puisse être de voir se rétablir cette étrange et gracieuse créature, qui, si elle a causé jamais un mal, ne l'a réellement causé qu'à elle-même, on ose cependant former simplement et bonnement le vœu. Il émane de sa personne une secrète inspiration de sentir que la guérison pour elle devrait être peut-être mieux s'appeler trahison, et que la maladie en la quittant serait une sorte d'infidèle.